Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire, rire, bien dormir.
Bouger, faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette qui est là pour les 30 prochaines minutes. C'est bon pour la santé sur Canal M. En première partie d'émission, la sédentarité qui nous guette tous et on le sait, qui pourrait nuire à notre santé à court, moyen ou long terme. Et ça peut être un défi à tous âges de faire de l'activité physique et ça l'est tout autant quand on a 65 ans et plus. Par contre, c'est possible d'inclure de l'activité physique dans notre routine et on va en parler avec Jean-Pascal Lyon, lui-même, qui est un retraité actif. Vous allez le découvrir. Également instructeur chez Studio Power Watts Nord, fondateur du club de vélo de la Fédération de l'âge d'or du Québec et capitaine de l'équipe Énergie Grise FADOC. Également en deuxième partie d'émission, une étude sortie à l'hiver dernier par l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal et l'Université de Montréal révélait que la consommation d'un produit pouvait influencer votre perception de celui-ci et vous rendre davantage sensible à ses effets positifs et atténuer votre compréhension, votre perception de ses aspects négatifs. Et c'est précisément ce qui se passe avec la cigarette chez les fumeurs chroniques. Ouais, on va en parler avec Liane Williams. Elle est étudiante au doctorat au Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal et à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Elle est également première auteure de cette étude. Je vous parle de tout ça dans quelques instants. Enfant, un adolescent ou un adulte, l'activité physique, c'est un facteur qui est déterminant dans notre qualité de vie. Et c'est aussi le cas, et parfois on l'oublie un petit peu, des personnes âgées. Jean-Pascal Lyon, lui, ne l'a pas oublié. C'est un retraité actif, un instructeur également chez Studio Power Watts Nord, également fondateur du club de vélo de la Fédération de l'âge d'or du Québec. Il est même le capitaine de l'équipe Énergie FADOC. Merci d'être là, Monsieur Lyon.
Merci beaucoup.
Important d'en parler, je trouvais, parce que selon les plus récentes prévisions démographiques, on nous dit que dans moins de 30 ans, 2 millions des Québécois auront 65 ans
Absolument.
Et plus. Donc, leur santé nous intéresse, nous interpelle également. Et on sait qu'une bonne santé débute. En fait, l'activité physique fait partie là, d'une bonne santé globale. Par contre, ce n'est pas si évident que ça quand on a 60, 65 ans, 70 ans et même plus, de faire de l'activité physique pour différentes raisons ou même de s'y mettre. On connaît les bienfaits, mais est-ce qu'il y en a qui sont plus spécifiques aux gens plus âgés?
Absolument. Il y a deux grandes familles de bienfaits associés avec la pratique d'activité physique passé un certain âge. Le premier, c'est bien sûr la prévention des maladies, le mieux-être, la défense du système immunitaire, etc. Et la qualité de vie, le mieux-être. Le deuxième, également moins connu, mais qui commence à faire l'objet de plus en plus de recherches, c'est le ralentissement des effets du vieillissement. Alors, on n'arrête pas de vieillir, malheureusement. Biologiquement, on vieillit, mais on peut fortement ralentir les effets du vieillissement par une bonne activité physique bien appropriée.
L'une des raisons pourquoi j'ai l'impression qu'on associe moins vieillissement et activité physique, c'est le risque des chutes. On se dit à 65, 70 ans, c'est plus fatal si on se blesse, bon, c'est plus à risque. Donc, on évite peut-être certaines formes d'activité physique. Est-ce qu'il y a vraiment des risques, notamment par rapport aux chutes?
Ben, il y a des risques à tout âge. C'est bien évident, ouais. Par exemple, moi, j'ai fait récemment une chute de vélo. C'était ma deuxième commotion cérébrale. Il ne faudrait pas qu'il y en ait une troisième. Donc, il faut faire attention à ça. Et pour ça, j'ai arrêté certaines formes de compétition, mais j'ai gardé uniquement le contre-la-montre, qui est beaucoup plus sécuritaire. Bien sûr, il faut faire attention à l'encadrement. Une des choses que l'on perd parfois un peu avec l'âge et que l'on peut contrer avec l'activité physique, c'est évidemment l'équilibre général.
Ouais.
Donc, il faut faire attention à tout ça. Et donc, il faut tenir compte de notre historique, il faut tenir compte du type d'activité physique que l'on fait. Et notamment, c'est le cas de ceux qui font de la course à pied. Alors, on sait que la course à pied est un sport de contact. Et on a pu répertorier, encore une fois par les études scientifiques, que si on prend un triathlète, là où il y a le plus de risques de blessures, c'est d'abord sur la course à pied, ensuite la natation et en troisième sur le vélo, qui sont les trois composantes du triathlon. Mm-hmm. Donc oui, il faut faire attention. Également, il y a tout le problème de la perte de densité osseuse,
ouais,
tant chez les femmes que chez les hommes. Donc oui, il faut être un peu plus prudent et donc ne pas se lancer dans des activités à risque. Mais il y a énormément d'activités que l'on peut faire sans aucun risque.
Est-ce qu'il y en a qui sont peut-être plus favorables à un âge plus avancé?
Alors, c'est sûr que je vais prêcher pour ma paroisse.
Le vélo.
Le vélo est extrêmement sécuritaire, encore une fois, bien pratiqué. Pourquoi? Parce que, bon, c'est un sport essentiellement de rotation. Donc, même des gens qui font, et c'est mon cas, dans le genou droit, je fais de l'arthrose. Mais j'ai aucun problème. J'ai la difficulté à faire, je ne sais pas moi, une heure de montagne, de trekking. Mais je peux faire 140 km de vélo sans aucune difficulté. Oui. Mm-hmm. Donc, c'est un sport extrêmement doux pour les articulations. Bien sûr, s'il n'y a pas de chute, c'est un sport où il n'y a pas de contact. Et si on le pratique de façon extrêmement sécuritaire, dans des bons environnements, avec du bon matériel, et même si on peut se contenter de faire du vélo intérieur si on le veut, ça, c'est une activité qui n'est pas à risque. Il y a beaucoup d'activités également à l'intérieur, que ce soit, ça peut être du CrossFit, encore une fois, adapté pour les personnes âgées, que ce soit le yoga, qui est extrêmement recommandé, et notamment, entre autres, le tai chi même, qui n'a pas l'air d'un sport, mais le tai chi demande une énorme concentration, permet de se concentrer au point de vue équilibre. Moi, j'ai retravaillé mon équilibre, mm-hmm, entre autres, avec le tai chi et le yoga.
Mm-hmm. Mm-hmm. On pourrait penser aussi à tout ce qui se fait dans l'eau, l'aquaforme, qui a quand même bonne presse.
Excellent. Ouais. Excellent. Et on peut même faire de l'aquavélo, qui est une discipline qu'on retrouve maintenant de plus en plus dans plusieurs piscines, ou notamment qui est utilisée beaucoup pour la rééducation. Et d'ailleurs, le vélo, que ce soit en piscine ou à l'extérieur de la piscine, est extrêmement utilisé pour la réadaptation. On trouve des salles de spinning au centre épique. Et puis, bon, y a des gens comme Guy Carbonneau, que je connais bien. Et Guy, lui, a refait complètement sa rééducation après son opération des hanches sur le vélo. Et il est devenu un cycliste extraordinaire.
Après avoir été un athlète extraordinaire.
Il demeure un athlète extraordinaire.
Jean-Pascal Lyon, vous l'avez mentionné tantôt, je pense que c'est important. Il faut quand même, si on se met à faire du sport là, à 65 ans et plus, être bien encadré. J'imagine
Absolument.
Qu'il faut en glisser un petit mot peut-être à son médecin, si notamment on veut s'y mettre. Là.
Oui, et ça, c'est vraiment crucial. C'est-à-dire qu'avant d'entreprendre un plan de reconstruction de son bien-être physique, il faut avoir un très bon bilan. Il faut savoir si l'on a des problèmes d'hypertension, si l'on a des problèmes cardiaque, si la circulation se fait bien. Si on... Donc oui, préalable à toute nouvelle activité sportive, mm-hmm, il doit y avoir un bon bilan et, si possible, également rencontrer un entraîneur compétent qui devrait d'ailleurs demander ce bilan de santé et ensuite travailler un plan en fonction de ce bilan de santé, en fonction des goûts de la personne, parce que l'aspect motivation est très important, et en fonction de la morphologie, en fonction de l'historique. Donc, ce sont tous les paramètres que l'entraîneur doit prendre en main pour proposer le programme qui convient.
Si on n'a jamais fait d'activité physique, on a 65 ans, on veut s'y mettre, on commence par quoi? J'imagine doucement.
Alors, il faut commencer doucement, mais assez rapidement, on peut commencer déjà à prendre de l'intensité. Il y a une recherche qui est sortie récemment, ça a été publié d'ailleurs dans la presse, qui vient de différents instituts de cardiologie, qui montre que même en réadaptation après un petit problème cardiaque, c'est important de mettre un peu d'intensité et faire ce qu'on appelle de l'entraînement par intervalle. L'entraînement par intervalle, on essaie de pousser la machine un petit peu au-delà de notre zone de confiance, eh bien, ça fait du bien. Et au bout de la ligne, on progresse beaucoup plus rapidement que si l'on essaye de trop ménager le système. Ceci étant, il faut tenir compte d'où on part. Si on part avec des problèmes de genoux, des problèmes de jambes, des problèmes d'articulation, etc., bien sûr, ça sera impossible de demander d'aller chercher une activité intense. Mm-hmm. Mais si ces choses-là sont bien maîtrisées, oui, on démarre tranquillement, mais assez rapidement, on peut mettre un peu d'intensité relative et bien travailler et obtenir des résultats.
Et j'imagine aussi qu'il faut être constant, c'est-à-dire que si on décide d'y aller deux fois semaine, on tient à notre deux fois semaine, c'est important.
Absolument. C'est-à-dire que si on va, par exemple, sur un petit vélo stationnaire et puis on écoute les nouvelles en jasant avec le voisin de gauche, le voisin de droite, et on roule, je ne sais pas moi, à 15 km/h sans mettre aucune puissance, ben, on n'ira pas chercher grand-chose. On fera une belle activité sociale, mais on n'ira pas chercher de l'amélioration. Mais effectivement, oui, il faut y aller tranquillement, progressivement, puis continuer à poursuivre l'effort.
Mm-hmm. Si on manque de temps ou on manque d'espace, peut-être aussi du point de vue financier, qu'est-ce qu'on peut intégrer à notre quotidien de façon tout à fait simple pour être plus actif?
Voilà. Alors, le principe de base, on n'a pas besoin de dépenser une fortune. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas nécessaire. La plupart de ce dont on a besoin est à notre portée gratuitement. La première chose, il faut se dire qu'il faut se motiver à faire au moins 3 activités par semaine pendant un minimum de 20 minutes à notre capacité cardiovasculaire maximum. Ça, c'est vraiment l'objectif.
Et maintenant, c'est accessible, ça?
Comment le faire? C'est pas compliqué. On est en ville, par exemple. Il suffit de monter les escaliers du métro. Une fois, deux fois, trois fois. Il y a certaines stations, d'ailleurs, qui sont particulièrement intéressantes avec des escaliers très, très longs.
Un petit peu plus olympique.
Oui, exactement. Mais il ne faut pas le faire en courant. Mais grimper des escaliers. Si on a encore une activité sédentaire, on est encore au travail. Faire des exercices assis à son bureau. Contraction des abdominaux. On élève les jambes. Ou on enlève la chaise. On continue à travailler sur son ordinateur assis en petit bonhomme pendant à peu près une quinzaine de minutes. Et on fait ce qu'on appelle du travail par contraction des fibres, mais sans faire de mouvement. Ça, encore une fois, c'est excellent. On peut prendre des bouteilles d'eau, on met dans le congélateur, ben, ça fait des haltères. Pas besoin de se payer un kit ultra sophistiqué, ça fait des haltères. Et si on a quelqu'un qui peut nous montrer les mouvements appropriés, et on peut les trouver d'ailleurs sur l'Internet, on se fait une très belle séance d'haltères, parce que ce qu'on oublie également, c'est que passé la soixantaine, oui, il faut maintenir le cardiovasculaire, mais il faut lutter aussi contre la sarcopénie et donc la perte de masse musculaire. Donc,
ah, c'est... Oui.
Et quand on est, par exemple, un cycliste comme moi, où on est très en confort sur un vélo, eh bien, malgré tout, il faut aussi se mettre à travailler le haut du corps, donc faire du poids, faire des haltères pour maintenir la masse musculaire du haut du corps, pour conserver une intégrité physique totale.
D'après vous, Jean-Pascal Lyon, parce qu'on peut le dire, là, vous faites partie de ceux qui ont 60 ans et plus. On ne dira pas votre âge exact.
Pas de problème.
On n'est pas là pour ça. Mais j'imagine que vous avez des copains autour de vous, peut-être pas tous autant sportifs et actifs que vous. Mm-hmm. Quel est le principal ou les principaux freins à être actif après 60, 65 ans?
C'est soit la méconnaissance ou le manque de motivation. Méconnaissance pour se dire, bon, je ne sais pas trop quoi faire, je ne sais pas comment, ou je ne serai pas capable, ou ça va être trop difficile. Donc, méconnaissance de soi,
manque de
confiance. C'est vraiment l'élément motivation. J'ai énormément de clients qui viennent chez nous, Studio Power Watt, qui repartent à zéro, qui n'ont rien fait ou qui viennent de finir leur carrière active et qui se disent, bon, ben là, j'aimerais ça peut-être me remettre en santé pour profiter d'une bonne retraite ou profiter d'une vie encore plus active. Il y en a beaucoup de personnes qui redémarrent à zéro et c'est vraiment surprenant de voir, des anciens fumeurs en particulier, et c'est très surprenant de voir avec quelle rapidité ces gens-là peuvent progresser rapidement. Alors, ce qui est amusant avec des gens très, très, très sédentaires, c'est qu'on prend de façon très précise la mesure de leur performance. Ils s'entraînent pendant toute la saison d'automne, la saison de printemps, reprend d'autres mesures et ils peuvent voir les progrès. Et les progrès sont absolument spectaculaires. Donc, c'est un peu comme s'ils renaissaient une deuxième fois. Et on peut, oui, progresser de façon incroyable.
J'aurais pensé que la douleur aurait pu être également un frein. Quand on pense à certaines personnes qui ont des maladies chroniques, Parkinson ou arthrite, entre autres choses, et qui ont mal, que ce soit aux articulations ou ailleurs dans le corps, et qui se disent, pour moi, aller marcher 20 ou 30 minutes, c'est un grand défi parce que j'ai mal.
C'est ça.
On répond quoi à ces gens-là?
Il y a à peu près, à part quelques contre-indications vraiment... difficile,
mais
oui, mais il n'y a pratiquement pas de contre-indication pour certains types de sports. Donc oui, la marche peut être problématique pour certains, alors que sur le vélo, ça peut être intéressant. Oui. Sur un vélo, bon, on peut peut-être pas être capable d'aller à l'extérieur ou avoir peur des chutes, mais sur un vélo intérieur, on peut jouer avec la position du vélo, mettre les gens dans une position qui serait un peu contre nature sur la route, oui, mais qui marcherait très bien. Moi, j'ai beaucoup de clients pour lesquels je vais monter le guidon avant de façon un petit peu exagérée. Pourquoi? Parce que tout l'objectif, c'est de relâcher la tension sur les muscles du dos, de permettre un meilleur développement de la cage thoracique et faire le travail au niveau des jambes pour aller venir stimuler le cardiovasculaire. Donc, il y a beaucoup de, si on a la bonne formation, on est capable de très bien guider nos clients et de tenir compte de leurs limitations naturelles dues à l'âge, mais malgré tout, de leur donner des bénéfices d'un bon exercice.
De l'activité physique. Oui. Ce que j'entends beaucoup, Jean-Pascal, c'est savoir s'adapter et savoir s'encadrer également, être créatif, apprendre à se connaître, à se faire confiance. J'ai envie d'aborder un dernier frein, peut-être, pour les personnes qui nous écoutent. L'hiver, la glace, le froid, la peur de sortir à l'extérieur, on peut s'adapter à ça également.
Absolument. Bon, des gens, par exemple, qui ont, comme moi, problème de genou, l'arthrose, pour ne pas la nommer, la raquette. Moi, j'ai arrêté de faire du ski alpin. Après ça, j'avais continué avec le ski de fond. Maintenant, je me mets avec la raquette de façon soutenue et ça va remarquablement bien. Mm-hmm. Donc, on peut, encore une fois, je reviens toujours à mon même motto, c'est l'adaptation. Mm-hmm. Et à l'intérieur, on peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à l'intérieur. On n'est pas obligé de sortir. Une maison... Et il y a plein d'outils dans une maison pour être capable de faire de l'exercice.
Oui. Donc, à peu de frais.
Des escaliers, oui, absolument, peu de frais.
Je rappelle que vous êtes le fondateur du club de vélo de la Fédération de l'Âge d'or du Québec et capitaine de l'équipe Énergie Grise FADOC. Est-ce que ça peut être une bonne façon, peut-être pas là, à un niveau si avancé pour la majorité des gens, mais de s'associer à une fédération, une association, un club sportif pour s'encourager?
Oui. Alors, vous avez tout à fait raison parce que se motiver seul dans son salon ou dans sa maison, c'est difficile. L'émulation que l'on a en travaillant dans un groupe, c'est extraordinaire. Donc oui, ça vaut la peine. Il y a beaucoup de groupes d'âge d'or maintenant qui proposent des activités physiques. Il y a beaucoup de clubs, par exemple, dans le cas du vélo, comme ce soit Vélo Passion, que ce soit Vélo Québec, qui offrent des voyages ou des excursions. Même moi, par exemple, j'encadre des cyclistes de la FADOC. J'ai fait un camp cette année à Cuba où j'avais des gens qui débutaient le vélo à 64, 65 ans, qui sont arrivés avec la boîte, ils ont débarqué à Cuba, ils m'ont donné la boîte de vélo, on vient d'acheter ça au magasin, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il a fallu que je monte le vélo complètement de A à Z, et je leur ai montré comment pédaler, comment se clipper, comment changer de vitesse, etc. Et je les ai laissés une semaine après, et puis c'était absolument incroyable de voir la différence, et surtout la motivation. Mais en groupe, oui, définitivement, si on peut joindre un groupe d'affinité, c'est un outil primordial, surtout pour assurer la continuité.
Et même si on a 65, 70 ans, qu'on se met au sport et à l'activité physique, les progrès peuvent être rapides et extrêmement signifiants.
Oui, et non seulement sur l'aspect physique, que l'on ressent très rapidement, mais également sur l'aspect intellectuel.
Ouais.
Parce que c'est toutes des relations de cause à effet. Alors, le fait de se sentir mieux, oxygéné, de se sentir plus déployé, plus équilibré, etc., automatiquement a aussi un effet sur les capacités cérébrales, mnémoniques, etc. Et on voit souvent, d'ailleurs, des gens d'un certain âge qui pratiquent du sport. Et d'ailleurs, j'ai été le cobaye d'un test qui s'est fait à l'Université de Montréal où ils avaient pris des personnes âgées de 60 ans et plus qui faisaient de la compétition cycliste. Donc, j'étais là avec une dizaine de mes collègues. Et ils nous faisaient courir sur la piste du Sepsum, rentrer dans une salle avec des machines. Il fallait répondre très rapidement à des stimuli. Et ce qu'ils ont voulu démontrer, c'est qu'effectivement, des personnes qui faisaient du sport, mettons, à un niveau relativement élevé à un certain âge, avaient aussi une capacité de réagir à des stimuli électroniques un peu plus élevés que la moyenne.
Ah oui, ouais. Complètement fascinant. Jean-Pascal Lyon, vous êtes un retraité actif fort inspirant. Merci beaucoup d'avoir été présent avec nous. Je rappelle que vous êtes également instructeur chez Studio Power Watts Nord et le fondateur du club de vélo de la Fédération de l'Âge d'or du Québec, capitaine de l'équipe Énergie Grise FADOC. Là, j'imagine votre vélo est remisé, là?
Pas encore. Non, l'automne est absolument une saison fabuleuse pour le vélo au Québec.
Et l'hiver, vous faites quoi?
L'hiver, ben, je fais du vélo intérieur.
Ben oui, le spinning, hein, c'est de plus
absolument,
en plus.
Absolument, absolument.
Ben, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial_canal_M.
Liana Williams, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes étudiante au Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, également à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Et vous êtes là aujourd'hui pour nous parler d'une étude qui semble, à première vue, un petit peu farfelue, le cerveau des fumeurs qui est biaisé. Mais quand on creuse un petit peu, on se rend compte que c'est pas tant farfelu que ça, parce que, et j'y vais de quelques chiffres là, dont... Bien, on en entend parler depuis plusieurs années de l'impact négatif de la cigarette. Ce que l'on sait, c'est que les fumeurs sont de 3 à 9 fois plus à risque de développer un cancer, une maladie pulmonaire ou des problèmes cardiaques. Également, la cigarette est associée à des problèmes de fertilité, au vieillissement prématuré. Ça a un impact aussi négatif sur la santé des autres personnes qui sont exposées à la fumée secondaire. Mais pourtant, il y a, et ça c'est au Canada, aux États-Unis, 20 % des adultes qui fument la cigarette, et même s'ils en connaissent, tout comme vous et moi, les impacts négatifs. C'est un petit peu ça que vous avez voulu prouver avec cette étude-là. Et c'était ça l'objectif à quelque part.
Oui, en fait, principalement, c'est ça notre objectif. On voulait voir s'il n'y avait pas un mécanisme neurobiologique pour expliquer pourquoi les fumeurs semblent insensibles à ce genre d'informations-là. Pourquoi savoir les conséquences néfastes du tabagisme, comme vous avez mentionné, sur la santé? Pourquoi ça, c'est pas suffisant pour infléchir de façon marquée le comportement des fumeurs?
Mm-hmm. Et qu'est-ce que vous avez trouvé suite à l'étude?
J'essaie de trouver une façon simple de l'expliquer parce qu'on a regardé la réactivité cérébrale, donc c'est un mécanisme un peu complexe. Mais comme vous l'avez dit, on a pu observer un biais dans la réaction cérébrale des fumeurs lorsqu'ils regardent ce genre de stimulus-là. Mm-hmm. Alors, on a présenté des images aversive, illustrant les conséquences négatives de la cigarette. Donc, les images qu'on voit justement dans les campagnes anti-tabac qui démontrent les effets négatifs sur la santé, c'est des images qui sont supposées déclencher une émotion négative et sont supposément motiver le fumeur à arrêter. Mm-hmm. Puis, on a vu que quand les fumeurs regardent ces images-là, oui, c'est vrai qu'ils réagissent. Ils ont des activités dans les régions du cerveau qui indiquent que, oui, ils ont une émotion négative quand ils regardent ces images-là. Mais comparé à des images qui sont aussi négatives, mais pas reliées à la cigarette, ils réagissent plus fortement à ces images-là. Donc, il y a comme un biais dans leur réactivité émotionnelle aux images anti-tabac. Mm-hmm. Ils n'ont pas la réaction négative qui pourrait avoir un impact sur leur comportement. Puis aussi, on a aussi regardé, quand les fumeurs regardent des images qui sont supposées pas donner envie de fumer, puis des images qui sont supposées donner envie de fumer, oui. Donc voir quelqu'un fumer, etc., on voit qu'il y a l'activation dans le système motivationnel est plus activée quand on regarde des gens fumer que lorsqu'ils regardent des raisons pourquoi ils devraient arrêter de fumer. Alors, dans le fond, notre projet, on a pu démontrer qu'il y a deux biais qui pourraient expliquer pourquoi les fumeurs sont insensibles à cette information-là. Mm-hmm.
Et vous l'avez fait sur une durée de combien de temps, cette étude-là?
Alors, c'est une étude d'imagerie. Alors, les gens, ils font juste venir à notre centre de recherche, puis on leur fait faire un scan d'imagerie. Alors, c'est à peu près une heure. Pendant une heure, ils regardent des images négatives reliées au tabac, des images négatives pas reliées au tabac, des images qui donnent envie de fumer, puis des images neutres.
Ça prend une heure, mais ça a été fait sur une durée d'un an ou deux ans?
Ah, OK. Donc, ça nous a pris à peu près deux ans à récolter toutes nos données, puis faire les analyses et voir ce qu'on a trouvé.
Et bien sûr, c'était sur le cerveau de fumeurs chroniques.
Oui, exact.
OK. Est-ce que vous pensez que cette étude-là pourrait influencer l'industrie du tabac, du marketing entourant les produits du tabac?
Oui. Alors, c'était pas l'objectif principal de l'étude. On n'a pas fait une étude de neuromarketing. On n'a pas testé différentes sortes de campagnes anti-tabac. Mais c'est sûr que nos résultats ont des applications pratiques. Si vous me permettez de postuler, je dirais que potentiellement, cette stratégie d'essayer de faire peur aux fumeurs, de lui dire « Ah, la fumée, c'est mal pour telle et telle raison », c'est pas nécessairement une stratégie qui fonctionne dans cette population-là. Ils n'ont pas la réactivité cérébrale nécessaire pour que ça motive leur comportement. Mm-hmm. Mais potentiellement, ça pourrait marcher chez un fumeur qui est moins dépendant ou chez une population mm-hmm. plus jeune. Mais chez quelqu'un qui fume depuis des années, il fume plus qu'un paquet de cigarettes par jour, c'est pas nécessairement une stratégie qui pourrait fonctionner.
Ben, en tout cas, Liane Williams, on souhaite, si ça peut aider des gens à diminuer leur consommation de tabac, ben, ça serait une bonne nouvelle. Merci beaucoup de votre participation à l'émission.
OK. Bien, merci d'avoir appelé.
Je vous rappelle qu'on est en rediffusion à 17h et vous nous suivez sur canalm.org. À demain. Bye-bye.